de Noir, deuxième partie, sans transition, comme on dit.
Eh bien, en fait, tout à l'heure, je vous ai amené à l'île de Ré, juste avant les informations. Eh bien là, je vais vous amener, c'est encore un petit peu d'été, je vous amène dans d'autres îles. Même si la saison ne s'y prête pas, vu ce qui s'est passé, on va aller aux Antilles, plus particulièrement en Guadeloupe, avec un roman de Maurice Attia qui s'appelle « La Blanche Caraïbe », qui est paru aux éditions Gigale. Alors dans ce roman, on va retrouver avec un très grand plaisir certains protagonistes des précédents romans de Maurice Attia, Alger la Noire et Pointe Rouge, entre autres. En fait, nous, on avait cru que Paco Martinez, son ami et son collègue Coupi, ainsi que la belle rousse Irène, étaient perdus dans les limbes des bibliothèques, des librairies.
Et surtout dans le cerveau de l'auteur.
Voilà, et qu'on ne les reverrait pas. Mais en fait, si, il les réactive. Alors ça se passe, bien sûr, ben, c'était il y a 5-6 ans. Ça se passe 5-6 ans après le dernier. Paco, lui, ben, c'était le flic, mais il est plus flic. Il est redescendu en Provence et il bosse désormais comme journaliste au Provençal. Il est à la fois chroniqueur judiciaire et critique de cinéma.
C'est un mélange étonnant.
C'est un mélange étonnant, mais en tous les cas, c'est un boulot bien plus pépère que celui de flic qu'il avait vécu, soit en Algérie, soit après à Marseille ou à Paris. Et donc, ben, malheureusement, en fait, il reçoit un jour un coup de fil de son vieux copain, donc qui était son collègue aussi, Coupi, qui s'est expatrié depuis des années aux Antilles, et ça va bousculer son petit tranquille train-train quotidien. Il va prendre l'avion pour essayer de retrouver son copain. Alors son copain Coupi, en fait, son vrai nom, c'est Tigran Coupidian. Mais en fait, dès le prologue, on sent... Le prologue ne laisse pas très peu de doutes, cela va pas bien se passer. Alors ce roman, donc La Blanche Caraïbe, aura trois locuteurs. Tigran et Paco, au début, qui vont raconter l'histoire. Et ensuite, Irène, qui était restée à Aix et qui viendra se mêler à l'enquête. Irène, en fait, elle va venir chercher son homme dans les îles. Alors, à l'époque, Coupi avait fui avec Eva, sa douce amie. Mais elle, Eva, elle est passée à autre chose, à d'autres hommes. Et Coupi, lui, ben, par contre-coup, il est passé à l'alcool. Il a paumé son boulot, et du coup, il se retrouve mêlé à de sombres histoires. En 1976, c'est l'époque où ça se passe, les Antilles vivent encore une époque quasi-coloniale. Les notables font affaire avec les magouilleurs, parfois même avec la bénédiction des plus hautes autorités de l'État. Mais bon, c'est une autre affaire. Enfin non, puisqu'il va nous en raconter une partie. Et comme il avait si bien su le faire pour la guerre d'Algérie, dans Alger la Blanche, ou pour les exactions du sac.
Je pense que c'est Alger la Blanche, c'est le port, là, c'était plutôt Alger la Noire.
Alger la Noire, pardon, bien sûr. Alger la Noire. Et donc après, pour le sac, c'était dans Pointe Rouge et le suivant. Là, il va nous raconter la vie dans ces îles, ces Antilles, ces îles caribéennes, en période post-gaulienne, en période giscardienne. Il va prendre ça sous la forme d'un polar, évidemment, puisqu'il écrit des polars. Et en fait, c'est quasiment, là aussi, un drame shakespearien. Politique, trahison, vengeance. Le tout sous fond d'amour, de sexe et de drogue. Bon, peut-être dans Shakespeare, il n'y a pas beaucoup de drogue, en tout cas, il n'en parlait pas. Et comme Maurice Attia est dans la vie psychanalyste, pour lui, le sexe régit tout. Et il sert aussi souvent d'exorcisme à une déchéance annoncée. Je ne saurais trop vous conseiller de lire ce roman, et particulièrement le passage où il utilise le requiem de Mozart. Vous ne l'entendrez plus jamais pareil. Seule peut-être la version qu'il a choisie, celle de Karajan, est discutable, mais bon, ça, c'est une affaire de goût. Maurice Attia a un vrai talent de conteur. Il peut être parfois un peu didactique, mais il est toujours chaleureux dans ses personnages, l'action, il y a toujours vraiment une grosse chaleur. Un peu comme quand on prend la kémia autour d'un verre d'anisette. Car en fait, je ne savais pas, mais on trouve aussi de l'anisette en Guadeloupe. Enfin, peut-être en 1976, en tous les cas. Il n'y a pas que du rhum. Ceci dit, le rhum, ils en consomment, ils en font un très bon usage. Maurice Attia a une narration très tendue. Il embarque le lecteur dans la vieille coccinelle jaune que Tigran a achetée. On met Doc of the Bay dans le lecteur de cassette qui bouffe la bande, bien évidemment, comme tout lecteur de cassette qui se respecte. Et on suit l'enquête au milieu des protagonistes. Alors, comme Maurice Attia est aussi fan de cinéma que son héros, il nous parle aussi beaucoup.
Alors là, on a avec... du magnétoscope, là, je
voilà,
suppose.
Voilà, exactement. Hein. Avec beaucoup d'enthousiasme des films qu'il aime. Alors, soit c'est les films de l'époque, donc dans les années 70, ça nous recale un peu sur la période de ces années, soit ce sont des grands classiques. Et il nous raconte des scènes qui, en fait, font écho aux scènes qu'il est en train de nous décrire dans les Antilles. Donc, autant vous dire, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, vous avez pu comprendre. Et en plus, l'éditeur annonce que c'est le premier d'une nouvelle trilogie. Donc, on attend déjà, après la lecture de celui-là, le retour de Paco, Irène, et aussi de leur fille qui s'appelle Bérénice, ça ne s'invente pas.
Bérénice ?
Bérénice.
C'est joli.
Donc, j'ai évoqué Dog of the Bay. Eh bien, on va écouter Dog of the Bay, mais pas dans la version de Otis Redding, mais dans la version d'une version de Neil Young avec Booker T and the MGs, qui est enregistré live en 1993, avec à la guitare tout de même Steve Cropper. Et Steve Cropper, c'est celui qui a écrit pour Otis Redding cette magnifique, magnifique chanson. Neil Young, Steve Cropper and the MGs.
En effet, au bord du Rhône, avec un roman de Claude Amos qu'on est ravis de retrouver. On avait adoré les romans de Claude Amos et on n'avait plus de nouvelles depuis pas mal d'années. Donc, La Décoronée aux éditions Rivage, c'est une très très bonne nouvelle. C'est donc le titre de ce roman. Et je vous l'ai dit, on est au bord du Rhône, on est dans une petite ville qui s'appelle Viatre. Et on découvre au début du roman Guy qui s'installe quelques jours dans l'appartement de son frère Johan. Guy, il est petit, il souffre d'un eczéma particulièrement douloureux, surtout pendant cet été caniculaire, parce qu'on est en pleine canicule, et il va pouvoir, du moins le croit-il, juste l'espace de quelques jours, vivre une autre vie. On va dire métaphoriquement « changer de peau ». Les deux frères ont été élevés par une mère adoptive, Maya, qui vit pas loin, dans le même quartier ou juste à côté. Plus loin, on découvre Camille, une jeune adolescente déboussolée, orpheline de mère. Elle a du mal à gérer un physique disgracieux, car une tache de naissance sur le visage assez importante. Et puis, elle a, à ce moment-là, à digérer aussi la naissance proche d'un demi-frère. Et ses souvenirs d'enfance se trouvent montés de la découronnée, d'où le titre du roman, là où justement réside Guy. Là où justement Maya erre dans le souvenir d'un enfant disparu. On va remonter pas mal d'années en arrière. Johan, quant à lui, parti dans une randonnée en montagne, ne donne plus de nouvelles, ce qui accentue encore le couvercle de la dramaturgie. On va voir quelques traces sur un plancher, des cris dans la tête, la chaleur, la canicule de cet été 2003, et il n'en faut pas plus à Claude Amoz pour tricoter un roman noir et cruel. Pas d'effet de manche, pas de style amphigorique, des phrases simples, des phrases tranquilles, pour raconter les affres de quelques existences, les blessures profondes, les stigmates à fleur de peau. Je ne vais pas revenir sur l'eczéma, la tache de naissance, il y a beaucoup, beaucoup d'images. Il y a aussi les drames anciens qui brûlent et tordent les vies présentes. Et tout est brouillé dans le récit de Claude Amoz. La vue et l'esprit des personnages, l'air souvent envahi de brume, on est au bord du Rhône, mais aussi le fil linéaire du temps. Les strates de la mémoire ne sont pas empilées aussi régulièrement que les limons qui envahissent les plaines du Rhône dans cette petite ville de Viatre. Claude Amoz dit « Les choses qu'on essaie d'oublier finissent toujours par remonter. Ici, comme dans beaucoup d'endroits, elles envahissent et pourrissent les existences de Maya, Guy, Camille et de ceux qui, un jour ou l'autre, ont côtoyé cette fameuse montée de la découronnée. Les lieux laissent aussi leurs traces. » Dans un précédent roman, paru il y a 15 ans maintenant, « Bois brûlé », on était en forêt d'Argonne, et cette forêt sourdait du lointain passé des cicatrices purulentes de la Première Guerre mondiale. La découronnée, elle exhale dans les mémoires des personnages des souvenirs empoisonnés, bien plus dangereux et insidieux que bien des meurtres. Cela faisait bien longtemps, comme on l'a dit, que Claude Amoz n'avait fait résonner sa voix singulière et attachante dans la planète polar. Et on est vraiment, vraiment ravis de pouvoir l'entendre à nouveau. Je rappelle le titre du roman, « La découronnée », c'est chez Paillot Rivage, et c'est un roman de Claude Amoz. Jacques, on va terminer.
Alors, avec un roman qui est pas du tout des romans de la rentrée, puisqu'en fait, il est paru pour la première fois en 1897. Sa première parution en feuilleton dans le journal Le Matin. La première édition en papier roman, elle date de 1911 chez Fayard. Ce roman, ça, c'est Un homme dans la nuit de Gaston Leroux. Gaston Leroux, oui, vous savez, celui de Rouletabille, Chéri Bibi ou du fantôme de l'opéra. Mais celui-là, c'est
un des fondateurs.
Voilà. Et Un homme dans la nuit, c'est le premier roman de Gaston Leroux. On ne le trouvait plus, la précédente édition datait de plus de 30 ans, donc c'est vraiment bienvenu de la retrouver. Qu'est-ce que nous raconte ce roman? Qu'est-ce que nous raconte Gaston? Alors je vais essayer de prendre son style. Jonathan Smith, le roi de l'huile, est immensément riche. Marie, enfant de rien et du hasard, de la misère, qu'il a ramassé un jour de promenade avec sa mère, va devenir son centre du monde. Ses beaux grands yeux clairs l'ayant séduit tout de suite. Mais Marie en aime un autre et va être amenée à tuer Jonathan. Laissé pour mort, il réchappe par miracle, guéri par des Indiens. Ça se passe aux États-Unis. Après 20 ans de préparatifs, il lance sa terrible vengeance, corrompant et achetant tous ceux qui lui permettront d'atteindre le but qui s'est fixé. J'entends déjà derrière le poste les quelques auditeurs nous dire « Mais on la connaît cette histoire, c'est du Monte Cristo. Et oui, en fait, ça ressemble beaucoup dans la trame. Ça ressemble aussi à Mathias Sandorf de Jules Verne, qui avait fait déjà son remake de Dumas. Mais Gaston Leroux, dans ce roman, innove en faisant de son vengeur un méchant, un salaud pourri. En fait, il voulait épouser la jeune femme, mais sans vraiment son consentement. Il avait sauvé de la misère, ça lui suffisait comme raison. Il va même jusqu'à utiliser son fils qu'il a eu dans un précédent mariage pour l'aider dans sa vengeance. À part le début du roman, le prologue en fait, qui se déroule aux États-Unis, tout le reste se déroule, en très grande partie 20 ans après, tiens, encore du Dumas. Mais 20 ans après, à Paris, en région parisienne, même si on n'appelait pas ça la région parisienne à l'époque. Cette époque, c'est le Paris de la Belle Époque, justement. Ce qui permet à Gaston Leroux de se régaler, et par là même de nous régaler, avec sa description des salons parisiens, de la belle vie dans les milieux aisés. Il passe un peu sous silence tout ce qui n'est pas vraiment les milieux aisés, qui est un peu plus proche du caniveau. Les personnages du prologue, évidemment, Jonathan, Mary, tout ça, ils ont changé de nom, mais on les reconnaît assez vite après quelques chapitres. Il y aura beaucoup de mystères, des personnages vêtus de noir, venant des îles anglaises, ayant des amitiés avec le tsar. De quoi, évidemment, émoustiller toutes les jeunes et moins jeunes femmes des beaux quartiers. Ce personnage mystérieux. Le roman aurait pu aussi s'appeler « Drame à l'auberge rouge » car c'est là que tout va se jouer dans la dernière partie. Bien sûr, on est assez loin des romans noirs dont on vous parle généralement dans cette onde noire. Mais Gaston Leroux sait vraiment y faire pour nous happer et nous embarquer dans son histoire. Il y a un petit côté romantique qui n'est pas désagréable de temps en temps. Il faut reconnaître que parfois, il y a quelques longueurs. Mais je rappelle que c'est un roman qui était publié en feuilleton. Il y en a eu 101 épisodes, donc il faut quand même tenir le rythme. Et quand l'action faiblit, il y a toujours un petit quelque chose qui la relance. Il y a même des scènes coquines, disons, qui sont très habilement écrites pour ne pas heurter la bonne société. Et comme je le rappelais tout à l'heure, Gaston Leroux, c'est aussi l'auteur du Fantôme de l'Opéra et de Rouletabille. Donc on va avoir une petite dose de mystère, une petite dose de surnaturel qui ne va pas manquer de se rajouter à l'histoire. Il y aura bien sûr, on est dans un polar, du suspense. Puisqu'on ne saura pas jusqu'au dernier chapitre ou presque si Jonathan va réussir à assouvir sa vengeance. Et je ne vous le dirai certainement pas. Voilà donc ce roman. En fait, c'est une réédition qui est tout à fait bienvenue. Alors ça a tout du divertissement. Divertissement léger. Certes un petit peu suranné, mais totalement goulayant. C'est un plaisir de lecture coupable et en même temps revigorant, parce que quand on sort de cette lecture de 450 pages, on a passé un vrai bon moment de lecture avec des personnages, on a un peu rêvé d'autre chose que effectivement de nos romans noirs dont on parle assez souvent dans cette émission.
Et bien voilà,
émission
déjà,
qui se termine,
première émission de la saison. On va vous souhaiter de lire des bons romans et chacun dans son coin avec un bon bouquin.
Ou plusieurs, à bientôt.
Au revoir.